5 FM, je vous laisse en bonne compagnie, celle de Marion Casanova.
Merci Vincent Dublange, à tout à l'heure. Il est 7h43 à Paris. À suivre sur RFI, on parle de la guerre au Soudan avec le grand invité Afrique Souleymane Baldo qui nous expliquera pourquoi l'armée du général Al-Bourhan progresse ces derniers mois face aux forces du général Hemeti. Le plan de la Russie pour développer sa production de lithium, minerai stratégique, indispensable pour la fabrication de smartphones, de voitures électriques. Moscou met les bouchées doubles depuis le début de la guerre en Ukraine. On en parle dans la chronique des matières premières. Et d'abord, on passe au sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Marion.
En football, les quarts de finale de la Coupe de la Confédération et l'entrée en lice maîtrisée du tenant du titre.
Le Zamalek du Caire est allé chercher un nul 0-0 sur la pelouse des Sud-Africains de Stellenbosch. Petit avantage psychologique avant le match retour, ça se prend. Le même que celui obtenu d'ailleurs par l'USM Alger après son nul un partout face au CS Constantine. La meilleure opération du soir, c'est celle des Égyptiens d'Al-Masri après leur victoire 2-0 face aux Tanzaniens de Simba.
Pendant que la renaissance de Berkane allait s'imposer en Côte d'Ivoire.
Face à la SEC Abidjan, qui avait pourtant dominé la première période, mais dans un stade Félix Houphouët-Boigny acquis au Mimo, les Marocains se sont réveillés en deuxième mi-temps et l'ouverture du score d'Imad Riaï a suffi. Victoire 1-0 de Berkane et le défenseur marocain Adil Taïf pouvait se réjouir de la solidité de son équipe.
On savait que le match ça n'allait pas être facile, surtout contre un adversaire très fort qui est la SEC Limousin. Donc on a bien pu gérer le match des débuts jusqu'à la fin. On est solide, on a bien serré les espaces qu'ils voulaient chercher. Surtout, on était prudents sur les jeux longs. On a bien fermé l'espace et on était vraiment concentrés surtout sur les jeux côtés. Ils aimaient bien passer par les côtés. Donc, on l'a bien géré, on a bien fait notre stratégie et je crois que ça a marché. C'est des joueurs compétiteurs, c'est l'un des meilleurs des joueurs de l'Afrique aussi. Bah, le match surtout face au notre public, je crois que on va être au rendez-vous, Inch'Allah. On va répondre présent.
Adil Taïf avec Youen Gourlet, quart de finale retour de cette Coupe de la Confédération la semaine prochaine, le 9 avril.
Chez les jeunes, la CAN U17 au Maroc débute ce jeudi de la deuxième journée de la phase de groupe.
Battu par le Burkina Faso lundi, le Cameroun doit réagir aujourd'hui face à l'Afrique du Sud. Fort de leur victoire sur l'Égypte lors de la première journée, les Sud-Africains paraissent plutôt sereins, pendant que les Camerounais, eux, vont devoir faire abstraction de la pression du résultat, estime leur sélectionneur Alioune Saïdou.
Nous avons deux matchs devant nous. On va essayer de remobiliser ces enfants-là pour qu'on puisse justement repartir sur de bonnes bases, sachant que c'est eux qui ont ramené cette équipe là où elle est. Le seul souci qu'on avait, c'est la finition. On leur a dit, il y a eu de bonnes choses, mais maintenant on va essayer de corriger ce qui n'a pas marché et faire un bon résultat contre l'Afrique du Sud. Le plus important pour nous, c'est que les enfants s'amusent. Et nous avons remarqué quand ils prennent du plaisir, les résultats suivent derrière. N'oublions pas quand même, c'est les U17, c'est leur développement et voir comment ils progressent qui est important pour nous.
Alioune Saïdou avec Joël Wadem, Cameroun, Afrique du Sud à Casablanca, coup d'envoi 14h, temps universel. Dans ce même groupe B, l'Égypte affrontera le Burkina Faso à 17h TU, pendant que dans le groupe A, l'Ouganda affrontera la Tanzanie. Dernier match de la journée à 20h TU, le Maroc, pays organisateur après son 5-0 de la première journée, défie la Zambie, elle aussi forte d'une large victoire lors de son entrée en lice.
On finit avec de l'athlétisme. Antoine, à l'approche des mondiaux, le Kenya met les grands moyens pour renforcer ses contrôles antidopage.
3 tests de dépistage pour pouvoir être sélectionné, c'est ce que devront subir les athlètes kényans. L'objectif des autorités est de mettre fin au scandale à répétition. Depuis 2017, près de 130 athlètes kényans, principalement des coureurs de fond, ont été sanctionnés. Le Kenya avait même été déclaré non conforme par l'Agence mondiale antidopage. Les championnats du monde d'athlétisme sont prévus à Tokyo du 13 au 21 septembre prochain.
Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure.
RFI Matin.
Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti subissent depuis le début de l'année de lourdes pertes, pertes infligées par l'armée du général Al-Bourhan qui a repris notamment la capitale Khartoum. Les deux camps sont d'accord sur un point, pas de négociation, la guerre doit aller jusqu'au bout. Le chercheur soudanais Souleymane Baldo est le fondateur du centre de réflexion Sudan Policy and Transparency Tracker. Invité de Christophe Boisbouvier, il explique les raisons des avancées de l'armée du général Al-Bourhan.
Souleymane Baldo, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi les forces armées soudanaises ont-elles pris le dessus à Khartoum ?
Les forces armées soudanaises ont été dans le défensif depuis le début de la guerre, n'est-ce pas ? Elles ont subi beaucoup de revers parce que l'armée soudanaise, au début de la guerre, n'avait pas des troupes de soldats d'infanterie. L'infanterie de l'armée soudanaise, c'était les forces de soutien rapide. Et depuis le mois de septembre 2024, l'armée soudanaise soudanaise a pu recruter des milliers de volontaires. Et il y a aussi des volontaires islamistes, des brigades djihadistes du mouvement islamiste soudanais qui se sont rejoints à l'armée et qui, disons, étaient le fer de lance de cette armée dans cette offensive.
Alors les forces de soutien rapide n'ont pas seulement perdu Khartoum, elles ont dû se retirer aussi de Wad Madani, c'était il y a 2 mois, au sud de Khartoum, et elles n'ont pas pu continuer d'assiéger El Obeid, c'est dans le Kordofan, au sud-ouest de Khartoum. Pourquoi cette série de défaites ?
La raison principale du côté des forces de soutien rapide, c'est que c'est une force milicienne, c'est une force de milice janjaïde, où la loyauté des combattants est pour leurs chefs, disons, à cause des liens de clans, les liens tribaux. Et sur le terrain, l'armée soudanaise a visé la liquidation des commandants et cela a mené à une situation où les combattants se trouvaient sans lien direct avec leurs commandants et donc tout cela montre une faiblesse structurelle dans la formation des forces de soutien rapide.
C'est-à-dire qu'en ciblant et en neutralisant les chefs de clan et les chefs de tribu, les forces armées soudanaises ont affaibli les forces de soutien rapide.
Ils ont ciblé, disons, les chefs avec ciblage de drones, oui, mais aussi avec infiltration des forces de soutien rapide. Il y a, par exemple, Galaha, c'est l'un des plus récents, c'est quelqu'un qui était très illustre dans les rangs des forces d'intervention rapide et sa liquidation a beaucoup affaibli le moral de ses forces.
Et ce chef de guerre, il a été assassiné où ?
C'était quelqu'un qui était dans le centre du Soudan, dans la région de la capitale, et ses combattants disent que c'était par un drone qui a visé son véhicule.
Son véhicule a été ciblé par un drone.
Oui, voilà, c'est ça.
À Wad Madani, au sud de Khartoum, les FSR ont commis des atrocités contre la population. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont perdu le contrôle de cette ville ?
Partout où se sont déployées les forces de soutien rapide, se sont attaquées à la population civile. Dans certains endroits, comme dans l'état de Darfour de l'Ouest, c'était un ciblage ethnique pour des Massalites, par exemple, et c'était des actions génocidaires qu'ils ont commis contre ces populations. Un comportement criminel, et ce qui fait qu'ils n'avaient pas de soutien au sein de la population. Mais alors, au moment où l'armée soudanaise est arrivée à récupérer Gezira, et maintenant ça se passe à Khartoum, il y a certaines unités de l'armée soudanaise qui s'adonnent au même type de comportement criminel, c'est-à-dire des brigades de mort qui visent les populations de l'ouest du Soudan, du sud du Soudan, les Noubas, comme étant des collaborateurs avec les forces de soutien rapide, et ils sont en train de les liquider dans des exécution sommaire devant caméra.
Et cela se passe, dites-vous, dans l'état d'Al Jazeera et notamment dans la ville de Wad Madani au sud de Khartoum ?
Elle se passe maintenant, au moment où on se parle, à Khartoum même. Ces brigades se sont montrées vraiment très systématiques dans la poursuite, soi-disant, des collaborateurs avec les forces de soutien rapide.
Malgré sa défaite militaire de Khartoum, le général Emeti affirme qu'il n'y aura ni retraite ni reddition. Mais est-ce qu'il a les moyens de continuer le combat ?
Alors, il y a 2 choses, n'est-ce pas? Hemeti a fait ses affirmations, ses menaces dans son adresse à l'occasion de Eid al-Fitr. Le même jour, Burhan a fait un discours similaire où il a dit pas de négociation, pas de compromis avec les forces de soutien rapide, on ira dans la guerre jusqu'à la fin. Donc, les deux belligérants sont vraiment déterminés à continuer la guerre. Est-ce que les forces de soutien rapide a la force de continuer la guerre? Bien sûr, ces combattants qui se sont retirés du centre de Soudan sont intacts. Et donc, les deux belligérants se préparent pour des nouvelles phases de combat.
Souleymane Baldo, merci.
Le chercheur soudanais Souleymane Baldo avec Christophe Boisbouvier.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
5h52 en temps universel à la une ce jeudi 3 avril. Un grand tableau cartonné, bardé de pourcentages, l'arme de Donald Trump pour mener sa guerre commerciale. Nouveau droit de douane annoncé, 10% minimum pour tout le monde. Les pays asiatiques sont particulièrement touchés. D'ores et déjà, de nombreux pays ripostent ou préparent leur réponse. Le Brésil vote une loi de réciprocité contre ces taxes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit que les Européens sont prêts à répondre, mais qu'il n'est pas trop tard pour négocier. Israël appelle à évacuer des zones du nord de Gaza. L'armée israélienne étend son offensive et s'empare de zones entières de l'enclave palestinienne. Alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est arrivé tout à l'heure en Hongrie pour une visite diplomatique de 6 jours. Il défie ainsi le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pèse contre lui puisque Budapest est signataire de la charte de la CPI. Mais Netanyahou ne risque pas d'être arrêté, étant un allié du dirigeant hongrois Viktor Orban. Autre visite diplomatique aujourd'hui, celle des ministres des Affaires étrangères de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui réunit donc le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ces ministres se rendent en Russie et espèrent renforcer leurs liens avec le Kremlin. Les gangs intensifient leurs attaques en Haïti avec des niveaux de violence, d'insécurité très préoccupants. Des milliers de personnes ont manifesté hier contre cette situation, notamment contre l'inaction des autorités. Et puis en Birmanie, le bilan du séisme continue de s'alourdir. Plus de 3000 morts, alors que les chances de retrouver des survivants sous les décombres sont de plus en plus minces, 6 jours après ce tremblement de terre. La chronique des matières premières en Russie aujourd'hui avec ce plan industriel lancé par le président Vladimir Poutine pour extraire plus de lithium, matériau essentiel pour les batteries, des smartphones, ordinateurs portables, véhicules électriques. Des ambitions revues à la hausse depuis le début de la guerre en Ukraine. À Moscou, Anissa El Jabri.
Vladimir Poutine avait lancé son appel lors d'une conférence consacrée aux technologies de pointe à Moscou le 21 février dernier. « Nous n'exploitons toujours pas de lithium », avait-il dit, « mais nous pouvons le faire et nous aurions même dû commencer il y a 10 ou 15 ans ». Fin de citation. La Russie dispose en effet de ressources de lithium. Elles ont été estimées à environ 1 million de tonnes en 2024. Cela fait d'elle le quatrième pays en Europe pour ses réserves derrière l'Allemagne avec 3,8 millions. De tonnes, la République tchèque 1,3 million et la Serbie 1,2 million. Dans le monde, en revanche, la Russie se classe très loin derrière les géants d'Amérique latine comme la Bolivie, dont les réserves sont estimées à 23 millions de tonnes, l'Argentine à 22 millions et le Chili à 11. Jusqu'ici, d'ailleurs, la Russie se préoccupait assez peu de l'exploitation de ce minerai et se reposait largement sur les importations. Les sanctions occidentales ont tout changé. Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, Moscou cherche à développer son autonomie et à passer de la production actuelle très limitée à une plus grande échelle et ce d'ici 5 ans. Aujourd'hui, la production de lithium en Russie se limite à 27 tonnes par an. Elle est extraite comme sous-produit de l'exploitation d'émeraudes dans les montagnes de l'Oural. En première ligne aujourd'hui, pour ses projets, Polar Lithium, une co-entreprise entre le géant russe des métaux Nornickel et la société publique d'énergie nucléaire Rosatom. Polar Lithium veut développer le gisement de Kolmozerskoye, le plus grand de Russie, situé dans la région de Mourmansk, c'est au nord-ouest du pays. Le ministère des Ressources naturelles a d'ailleurs délivré 2 autres licences pour exploiter un autre gisement dans cette même région, ainsi qu'un autre dans celle de Touva, proche cette fois de la Mongolie. L'objectif est d'atteindre une production de 60 000 tonnes par an d'ici 2030, un calendrier qui semble très ambitieux, selon les analystes miniers indépendants.
Anissa El Jabri à Moscou pour la chronique des matières premières. Toutes nos chroniques sont à retrouver sur notre site RFI.fr ou bien sur notre application Pure Radio.
RFI Matin.
La Chine continue de mettre la pression sur Taïwan avec des manœuvres militaires de plus en plus importantes, de plus en plus récurrentes. Pékin considère que cette île fait partie intégrante de son territoire et affirme que personne aujourd'hui ne peut empêcher la réunification. Face aux infiltrations chinoises, Taïwan redouble de vigilance. Un grand reportage de Nicolas Roca, on en écoute un extrait.
Le peuple chinois adore la paix, mais pas besoin d'avoir peur du combat. Les enfants perdus seront bientôt de retour. Chen Poyuan est un jeune rappeur taïwanais au visage rondouillard et à la mine affable. Dans ce clip, il chante à la gloire du Futian, le 3e porte-avions de la flotte chinoise. Mais après plus de 3 années passées comme influenceur au service de Pékin, il est devenu en quelques mois un lanceur d'alerte sur les méthodes du régime pour influencer la société taïwanaise.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer à gifler en pleine face ces influenceurs taïwanais qui lèchent les bottes du Parti communiste.
comme pour beaucoup de Taïwanais, c'est à travers la religion bouddhiste ou taoïste qu'il a eu ses premiers contacts avec la Chine.
Mon temple familial dans ma ville natale nous poussait à aller en Chine continentale avec eux. Ensuite, on allait allumer de l'encens ensemble, faire des visites de la Chine ensemble. Il suffisait de payer des billets d'avion et on était accueillis à l'arrivée.
Quelques années plus tard, ses liens avec le continent s'intensifient.
J'ai été sous l'influence du Parti communiste chinois pendant 6 ans. J'ai fait des études là-bas, j'ai créé une entreprise.
Il raconte comment il est tombé dans les griffes du Front Uni, le réseau de Pékin utilisé pour promouvoir l'unification.
J'ai fait mes études à l'université Huaqiao, qui opère directement sous la direction du Front Uni du Parti communiste. Et dans cette fac, il y avait beaucoup d'étudiants taïwanais. Il y en a encore 2000 qui étudient là-bas.
Depuis, les autorités taïwanaises ont interdit les échanges avec 3 universités chinoises, dont celle de Huaqiao.
Durant cette période, tout ce qu'on nous enseignait, c'était à quel point le Parti communiste chinois était bien, à quel point Xi Jinping est génial. En clair, l'histoire glorieuse du parti. Et quand on explique cela à des jeunes qui ne comprennent pas bien la politique, ce discours commence à infuser inconsciemment. Et puis, ils nous ont poussés à essayer d'entreprendre des actions patriotiques. Donc en 2021, j'ai commencé à relayer la propagande du Parti communiste chinois.
La version intégrale de ce grand reportage de Nicolas Roca a été écoutée sur RFI à 19h40 ou 21h40 heure de Paris ou en podcast sur le site de RFI ou bien l'application Pure Radio. On revient dans 30 secondes sur RFI avec le journal.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.